milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Céline Guillaume.
Bonjour les voisins, bonjour à vous les voisines et bienvenue à vous tous. Si vous êtes chez vous en ce moment, je vous invite à ouvrir les placards, les tiroirs de votre dressing. Faites-le vraiment et dites-nous, combien de pantalons ne mettez-vous plus depuis des mois et des mois ? Autre chose, le orange, ça n'a jamais été votre couleur. Alors pourquoi conserver cette jupe que vous ne mettez, que vous ne portez jamais ? Et cette pile de vêtements taille XS que vous gardez en attendant d'entrer hypothétiquement un jour à nouveau dedans ? 50 cravates, c'est beaucoup, non ? Surtout que vous portez souvent les deux mêmes. Admettons-le, parfois nous achetons, nous succombons aux appels de la mode, mais nous ne portons pas peu ou plus du tout ces fringues. Juste derrière le pétrole, l'industrie du textile est la seconde industrie la plus polluante au monde. La loi anti-gaspillage récemment votée en France devrait pousser les acteurs de ce secteur à se montrer plus responsables. Pour vous faire une idée, la production mondiale annuelle de vêtements émet 1,2 milliard de tonnes de carbone, soit davantage que le transport aérien. Des chiffres qui nous poussent à reconsidérer notre relation à la mode et si les vieilles fripes étaient la nouvelle tendance.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Mode et vêtements recyclés, réutilisés, transformés. Nous en parlons aujourd'hui dans 7 milliards de voisins avec nos invités. Je vous les présente. Nous sommes en compagnie de Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bonjour.
Bonjour Céline.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Brune et vous êtes notre partenaire des émissions Mode. Nous accueillons également Sakina Msa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice de mode, fondatrice de votre propre marque éponyme et vous militez, on peut le dire très fort, pour une mode éco-responsable. À vos côtés, tout aussi militante, bien évidemment, Marcia de Carvalho. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes créatrice de l'association Chaussettes Orphelines qui transforme les chaussettes perdues en de nouvelles créations. Et peut-être que vous allez nous aider à percer le mystère de la chaussette disparue dans la machine à laver.
En fait, on peut aider à percer les mystères, mais surtout, on aide à trouver des solutions.
Et on va en parler. Et il y en a des solutions. Devons-nous, mesdames, cette question je vous la pose à toutes, devons-nous tous un peu culpabiliser quand on enfile notre jean le matin ? Ce jean que nous avons tous à la maison, est-il l'un des symboles des effets néfastes de la mode sur l'environnement ?
Écoutez, non, on n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Je crois qu'on est dans... Je crois que quand on fait de la mode durable, que moi j'appelle la mode éclairée, parce que, enfin, je vous expliquerai pourquoi ce concept de la mode éclairée plus tard, mais on a tendance à être beaucoup plus optimiste et à être porteur de solutions. Aujourd'hui, ce qu'il y a d'important, c'est de se dire, mais je commence maintenant, je transforme maintenant. Et il y a des solutions, vous en avez parlé tout à l'heure, le vintage, le seconde main, parce que souvent, on nous dit que la mode éclairée, c'est une mode qui est cher, qu'on ne retrouve pas. Non, il y a de vraies solutions. Il y a des créateurs comme Marcia, moi j'ai ouvert un magasin qui s'appelle Front de Mode et où je vends mes collections, mais aussi ceux d'une cinquantaine de marques qui répondent au moins à des trois pistes de développement durable. C'est un collectif et qui démontre qu'on peut faire de la mode cool, sexy et en plus qui préserve la planète. Surtout pas, on n'est pas là en tous les cas pour faire en sorte que les gens se sentent mal. On est là pour faire en sorte que les gens cherchent à transformer et à participer avec nous à ce changement de paradigme.
Donc, appel à la prise de conscience. Le 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone que je vous invite à composer les voisins, les voisines, pour prendre part à notre discussion. Nous nous intéressons à la seconde vie de nos vêtements pour une approche plus écologique et responsable de la mode, comme vous venez de l'entendre. Alors, où en êtes-vous de ce côté-là ? C'est la question qu'on vous pose. Vous êtes d'ores et déjà un expert du système D en la matière. Les mots fripe et seconde main sont entrés dans votre vocabulaire et aussi dans votre dressing. Ce serait l'idéal. Ou au contraire, vous n'achetez jamais des vêtements qui ont déjà été portés, donc des vêtements usagés, tout ça, on en parle. Et vous avez d'ailleurs commencé à le faire via Facebook avec vos messages. Et mesdames, je vous invite à réagir à ces messages. On a Andrew à l'île Maurice. Moi, je donne une seconde vie à mes vêtements en les teignant. Nouvelle couleur, nouveaux vêtements. Sakina Msa applaudit, c'est une belle démarche. Un joli pas. Merci. Marcia de Carvalho.
Mais évidemment, autant plus qu'il y a rajouté de la création, ça fait du bien, ça nous fait du bien de créer. Et on crée à nouveau un vêtement ancien. Donc c'est une excellente initiative.
Belle
bravo.
Initiative, Andrew. Bravo, Ibrahima. Au Sénégal, les fripes, ce n'est pas cher et c'est classe. Je crois que ce mot, il est important. C'est classe parce que ça déconstruit aussi des images et des idées reçues de la fripe. Finalement, c'est pas terrible, c'est pas intéressant, c'est usagé, c'est sale, etc.
Là, là, moi, je dirais que la fripe, c'est comme l'Afrique, c'est chic. Donc, bravo Ibrahima, merci à toi.
Samba au Congo, Brazza. La friperie est devenue de la mode dans tous les pays africains, car c'est le seul endroit où on peut trouver des trucs originaux à bas prix. Massar, au Sénégal. J'habite à 150 km de Dakar, capitale du Sénégal, dans un village très enclavé, où il y a beaucoup de gens qui voyagent en Europe et envoient des vêtements de seconde main, chaussures, sacs, ceintures, écharpes à leurs femmes qui sont ici. Et nous, en tant qu'enseignants, on en profite pour acheter moins cher. Encore une fois, c'est classe. On trouve même des marques. Et effectivement, il y a ce marché très populaire de Colobane à Dakar qui est extrêmement connu, notamment pour la fripe.
Incroyable,
hein,
incroyable.
Un très grand marché. Et c'est vrai que la mode, c'est classe. Donc, acheter des secondes mains, c'est super. D'ailleurs, à propos du Sénégal, on fera avec les Petits Dakarois une collaboration chaussettes orphelines fabriquées au Sénégal avec des wax, avec un groupe de Sénégalais, super.
Donc il y a des bons, des passerelles qui se font aussi
complètement
avec l'Afrique. Abdoul à Dakar également, moi j'aime beaucoup les friperies, c'est moins cher, tu économises ton argent et ça dure longtemps. Donc la qualité soulignée là encore. Et ce qui est cool, c'est que tu ne croises personne avec les mêmes vêtements. Ça te rend unique.
Ça, c'est
super
important.
Il y a cet aspect-là aussi, d'avoir un vêtement qu'on est le seul.
Moi, j'ai l'impression qu'on s'est retrouvés à un moment donné où on était tous uniformes. Grâce, je ne citerai pas de nom, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour désigner du doigt qui que ce soit.
Mais on les connaît.
On les connaît et vraiment, il n'y a rien de pire que de se promener dans la rue et de voir qu'on a tout le monde a les mêmes vêtements. Mais il y a une vraie question. Moi, je crois que ces gens qu'on connaît, ils ont trouvé une solution que nous n'avons pas, nous, en tant que créateurs, qui sont qu'ils arrivent à produire beaucoup pour pas cher. Et moi, je comprends les personnes aujourd'hui qui se disent, mais moi, je suis désolée, vous me dites que c'est pas terrible d'aller acheter chez machin, mais entre-temps, voilà, moi, je peux acheter une chemise à tant d'euros qui est mon budget. Donc, je suis dans le court terme, ce qui est vrai. Qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qu'on pourra vraiment participer sur ce plateau pour être des apporteurs de solutions. Parce qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier.
J'ai rejoint Sakina là-dessus, oui, parce qu'en fait, je pense qu'on doit avoir ce même comportement qu'on a eu avec l'aliment bio. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes beaucoup à commencer à consommer mieux et moins.
À lire les étiquettes.
Je trouve que dans les vêtements aussi, on peut acheter moins et mieux. Donc peut-être qu'avec 3 chemises qu'on achèterait dans des conditions qui sont fabriquées dans des conditions pas favorables et trop, on pourrait acheter une seule. Qui nous sommes sûrs qui
souvent.
A été fabriqué et moins souvent. Voilà, on je a trouve ce... que ça passe par là.
Ce dernier message c'est d'Abdoul.
Si je me permets, je vais me faire l'avocat du diable. En fait, les choses ne sont pas aussi simples. D'un côté, il n'y a pas la mode, la fast fashion, et de l'autre côté, la fripe. On prend l'exemple de ce monsieur, de cet auditeur qui a dit qu'il teint ses vêtements. Mm-hmm. Mais la teinture est un acte, à moins que ce soit la teinture végétale, teinture est un acte qui est hyper polluant. Ce sont des produits synthétiques qui demandent beaucoup.
Il a pas précisé,
c'est vrai que je pensais tout de suite.
Donc, il faut faire attention. Parfois, on glorifie, par exemple, les teinturières du Mali. Mais les teinturières du Mali ont fait des dégâts écologiques dans les rivières au Mali qui sont catastrophiques. Donc, d'un côté, on favorise effectivement l'art, mais de l'autre côté, il y a une destruction, si vous voulez, de la nature qui existe. Deuxièmement, il faut savoir que la fripe...
La naturelle entre les deux.
Oui, mais il y en a très peu. Il y en a très peu, finalement. Deuxièmement, quand on parle de fripe, la fripe a été, pendant très longtemps, finalement... une des premières formes d'agression de la production locale africaine. Je m'explique.
Alors,
on prend des ballots de vêtements
Marie-Jeanne
ici.
Sabin, oui. Si je peux me permettre, je lis juste le dernier message d'Abdoul et on poursuit avec votre message. Puisque
oui, voilà. Choses ne sont pas aussi tranchées,
manichéennes.
Non,
on va y aller en Afrique,
pas.
Là, tout de suite. Je lis ce dernier message d'Abdoul qui, lui, est à Bobo Dioulasso, au Burkina. J'aime bien aller dans les friperies, c'est facile d'accès, pas cher et souvent les vêtements sont de très bonne qualité. En plus, de temps en temps, on trouve un billet dans les poches. Voilà. Je tenais à détendre cette atmosphère.
Elle a raison.
Vous avez raison.
C'est terrible.
Vous avez raison, Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
La fripe, on le voit comme ça. Effectivement, ça aide les gens qui ont un pouvoir d'achat relativement modeste pour s'habiller tous les jours parce que nous sommes dans des sociétés qui sont de plus en plus occidentalisées au niveau du vêtement. Mais il faut savoir que la fripe a détruit, si vous voulez, un certain nombre d'ateliers de couture traditionnels qu'il y avait en Afrique, des ateliers aussi bien de tissage que chez des tailleurs. Donc, et c'est pour ça, en fait, aussi, la fripe a été une des premières formes de déversement, finalement, des poubelles occidentales sur,
sur le continent africain.
Donc, mais ceci dit... c'est devenu, bon, pour beaucoup de gens, et même pour les sapeurs, par exemple, les sapeurs du Congo vont souvent dans des fripes pour trouver des, pas seulement là, mais pour trouver des beaux vêtements. Il n'y a pas une solution miracle.
On a des chiffres qui sont assez édifiants, et Sakina Hamza, je tiens à vous donner la parole là-dessus, puisque vous vous êtes exprimé avec des mots très très forts au sujet de l'Afrique, que vous aussi, vous qualifiez de poubelle de l'Occident. Il y a quand même, en Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements utilisés dans le monde, c'est-à-dire qu'un vêtement sur 8 échoue comme ça. En Afrique, vous l'avez constaté, vous vous y êtes rendu, donc l'Afrique ne découvre pas la fripe, et même si elle permet à des dizaines de milliers de familles d'en
des
vivre,
millions.
Parce que ça aussi, il faut le souligner, il y a d'autres effets qui sont beaucoup moins glorieux.
Mais moi, je remercie à toutes les deux de soulever. On en a parlé ensemble. Hein, je vous en avais parlé parce que moi, j'ai travaillé en Afrique pendant des années. J'ai eu la chance d'être commissaire pour l'Institut français de l'Afrique est à la mode. Donc, pendant des années, j'y suis allée. Je vous remercie, chère Marie-Jeanne, de l'aborder parce que je me suis dit, bon, sois sage, Sakina. On va l'aborder un peu plus tard dans l'émission.
Non, on fait ça tout de suite parce qu'on est là pour ça aussi.
Moi, je suis prête. Je suis au taquet. Alors, moi, je vais d'abord dire une chose. Merci, Marie-Jeanne, de le souligner parce que, effectivement, rien n'est tout blanc, mais rien n'est tout rose aussi. Et il y a une seule chose. Moi, j'ai constaté une chose. Moi, quand j'ai commencé à travailler la mode, le premier geste que j'ai fait, c'était un geste autour de l'environnement. J'étais une des pionnières à travailler là-dessus. J'étais contente d'embarquer avec moi plein d'amis, plein de copines qui se sont, avec lesquelles on a mené ce combat ensemble. Il y a une chose que j'ai comprise en tant que pionnière de la mode éclairée, c'est une chose. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas demander... Moi, je parle de sagesse. Par exemple, moi, quand j'ai ouvert mon magasin, je me suis dit, on va répondre au moins à un des trois piliers de développement durable, pas à tous en même temps. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le constat en allant en Afrique que c'était plus possible que l'Afrique soit la poubelle de l'Europe. C'était l'expression que je vous ai donnée au téléphone il y a 3-4 jours et qu'il y a beaucoup de talent. Je suis désolée. On a des créateurs extraordinaires qui nous écoutent, qui sont là, qu'à chaque fois que je viens à RFI, je salue parce que je les ai vus travailler comme des dingues, avec énormément de talent, avec énormément... Parce que moi, je dirais que l'Afrique, ça a été la première... Les créateurs africains ont été les premiers à travailler de l'upcycling. Moi, je les ai rencontrés, à travailler la mode recyclée. Donc, il faut qu'on leur rende hommage, ici, sur le micro d'RFI. Mais moi, ce que j'ai envie de demander, ce que je vous disais au téléphone il y a 3 jours, vous, les consommatrices, soyez citoyennes, les consommatrices africaines, je vous en prie, soyez citoyennes, allez soutenir le créateur qui travaille tous les jours, il faut acheter chez lui. Moi, je sais qu'il y a des femmes qui ont les moyens, je ne suis pas là pour dire, mais qui préfèrent acheter de la marque plutôt que d'aller acheter le jeune créateur africain. S'il vous plaît, moi, c'est eux qu'il faut soutenir.
Alors
parce
pourquoi
que c'est l'avenir.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui les empêche de franchir ce pas ?
Moi, j'ai une théorie, pardonnez-moi, mes frères et sœurs africains, mais moi, j'ai une théorie. On est quand même des sacrés vantards, tous. On aime bien avoir Gucci, Chanel, que ce soit bien vu, bien visible. On est comme ça aussi, je suis désolée. On a envie de montrer que voilà, on a acheté chez un tel. Eh bien, le créateur là, qui est vers le marché Saint-Daga, qui a son atelier ou à Cocody, ça peut être lui le prochain. Et notre intérêt à tous, c'est vraiment de faire en sorte de le soutenir, parce que c'est notre Zidane, c'est notre Mbappé de la mode, et nous avons le devoir aujourd'hui de les soutenir, parce que c'est eux qui vont soutenir l'économie du pays.
Marcia de Carvalho.
Oui, je voulais revenir sur la teinture, parce que oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, nos rivières, notre eau. Et pour cela, justement, chez Chaussettes Orphelines, nous pratiquons les tri par couleur. En fait, quand nous recevons en 2019, on a recyclé environ 1 200 kg. C'est beaucoup parce qu'une chaussette pèse environ 20 grammes.
Ça pèse rien.
On reçoit de toute la France tous les jours des cartons et beaucoup d'entreprises font des collectes pour mobiliser les équipes et pour aider ce process de recyclage. Quand on trie par couleur, il se passe deux choses superbes. Une, on aide à soutenir des emplois en insertion, parce que nous faisons ça chez Espérance, dans le nord de Paris.
Oui, avec des ateliers d'insertion sociale.
Et donc, les personnes vont trier par couleur. Et aussi, ils vont trier celles qui sont en bon état, parce que nous recevons pas mal de chaussettes en bon état, parce qu'elles sont trop petites ou parce qu'on n'a plus envie, celles qui sont petites pour les enfants. Et celles-là, on va faire des paires qu'on va encore offrir à des gens qui ont besoin, parce que ce n'est pas la peine de recycler, c'est qu'elles sont en bon état. Et celles qui sont en couleur, donc qui sont séparées par couleur, elles vont partir pour être effilochées et revalorisées, et donc pas de teinture. Donc, j'avais pris un petit chiffre qui était pas mal, parce que grâce à cette 1 tonne et 200 kilos de chaussettes, on a évité 300 kilos de CO2, l'émission des vraiment une belle participation pour à notre échelle.
C'est un bel impact.
Et 20 millions de litres d'eau qui équivaut à 400 000 douches. Donc ça, c'est ce qu'on montre... fait aujourd'hui et qui a tendance à continuer parce que grâce à vous, tous les auditeurs qui nous envoient des chaussettes, ça me fait chaud au cœur chaque fois qu'il y a les messieurs qui arrivent avec tous ces colis. Je suis toujours, toujours impressionnée et émue de voir la participation des gens qui se donnent le mal d'aller poster ça. Et maintenant aussi, quand on
Martial,
achète...
Je me permets de vous interrompre pour accueillir Anderson, parce que je pense qu'il se sent un peu esselé comme les chaussettes orphelines parce qu'on ne le prend pas à l'antenne. Il est là à Lubumbashi, en RD. C'est Anderson, bienvenue parmi nous.
Ok, merci madame, c'est moi qui vous remercie m'avoir appelé.
On vous fait un très bel accueil, on vous laisse réagir et intervenir. Alors vous, Anderson, vous avez des vêtements de seconde main à la maison?
Alors bien sûr, vous savez, la friperie, ici chez nous, dans mon pays, personne n'en manque vraiment, mais ce qui est vrai, c'est que bon, c'est pas tout le monde qui aime ça.
Mais vous, qu'est-ce qui vous attire dans ces vêtements usagés que vous portez sans aucun problème? Vous dites mon armoire en regorge.
Ah ben bien sûr. Plus comme je l'avais dit, c'est plus des trois quarts de ma valise qui est faite de friperie. Mais alors, ce qui m'attire beaucoup plus à cette qualité, c'est que c'est d'abord sa durabilité. Ce sont des habits qui durent beaucoup. Bon, vous pouvez avoir un pantalon qui va faire... que vous allez utiliser pendant longtemps. Ça, c'est la première des qualités.
Oui.
Mmh. Okay. La deuxième qualité, c'est que vous serez unique avec votre accoutrement.
Ouais.
C'est un peu ce que moi, j'aime bien dans ce qui concerne la friperie. Mais le mal, c'est que vous ne pouvez toujours pas avoir les habits qui vous conviennent convenablement. Vous voyez un peu ça?
Au niveau des tailles, vous voulez dire?
Ah, mais bien sûr, sur la taille. Bon, vous savez, moi, je mesure à peu près 1m82. Vous voyez? Alors, j'ai souvent du mal à avoir un pantalon qui me convient textuellement. Je peux avoir, au niveau de la hanche, ça va, mais par rapport à sa taille, ça ne va pas. Vous voyez un peu l'inconvénient de la friperie.
Oui, ça demande peut-être un petit peu plus de temps, mais pour mieux acheter aussi. Plus de temps pour trouver votre
acheter,
taille.
Bien sûr, je peux. Alors, vous voyez que c'est toujours rare. C'est beau, ça n'arrive pas tout le temps.
Anderson parle de durabilité, c'est très important. Merci, Anderson. Parce que Anderson? Bon, en tout cas, Anderson parle de durabilité, qui est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qu'on pourrait tous se poser... Moi, par exemple, en ce moment, j'ai sorti 4 pulls. Et où l'idée, le défi, c'est qu'ils vivent longtemps, que ça devienne quelque chose que l'on donne d'une génération à une autre. Parce qu'on n'a plus ces vêtements-là, ou à moins d'avoir les moyens, parce que malheureusement, les créateurs dont je fais partie, effectivement, quand on fabrique en France, on a un savoir-faire qui est incroyable, les vêtements durent longtemps, mais ils sortent chers, et ça devient insupportable, en tout cas même pour moi en tant que créatrice. J'ai envie de faire une mode qui soit inclusive. Et la durabilité, elle doit être pour tous. À un moment donné, il faut qu'on devienne des créateurs de mode démocratique. Et pour moi, par exemple, aujourd'hui, le deuxième combat, ça a été le prix. Parce qu'on peut pas parler d'inclusivité et avoir l'envie de faire de l'inclusivité, créer de l'inclusif, parce que quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Donc nous, on a travaillé dur pour dire qu'on refuse le prix qu'on nous a donné là, mais on va essayer de trouver dans la chaîne de valeur que tout le monde soit heureux, c'est-à-dire le client final, que ce soit du Made in France, puisqu'on l'a fait en France, mais que ce soit aussi un pull qui réunisse les familles et qui puisse permettre à tout le monde d'en sortir gagnant. Et on a pris un pari qui était incroyable. On a acheté, pardonnez-moi l'expression, hein, un pull entre guillemets de la fast fashion. Mm-hmm. On a regardé son prix et on l'a décortiqué. Et on a dit, bah, écoutez, nous on va le faire avec une chaîne de valeur au niveau des teintures, que tout soit sans OGM, sans... tout soit vraiment extraordinaire au niveau de la chaîne, au niveau de la chaîne de valeur, et ça va arriver au même prix que ce pull, et en plus il sera sexy.
Et alors, pari réussi ?
Et que ça va durer. Eh bien, le pari réussi, vous pouvez le découvrir sur KissKissBankBank, chercher le sweet pull by Sakina Hamza, et vous verrez, c'est au prix
de la fast fashion. Je vous propose cette rencontre avec Ama Yivi. Il est entrepreneur, designer, chineur togolais. Il est arrivé en France à l'âge de 12 ans. De cette double culture est née la marque Marché Noir, que vous connaissez peut-être. En 2012, il lance une friperie au cœur de Paris, c'est dont la plupart des vêtements sont recyclés des marchés de Lomé, donc au Togo. Et depuis 3 ans, cet agitateur de style a également commencé à designer ses propres créations pour donner une nouvelle vie à sa marque, donc Marché Noir, Lomé Paris. Raphaël Constant l'a rencontré dans un showroom parisien où il exposait ses pièces en tissu kinté du Ghana et des batakali revisités.
Marché Noir, à la base, c'était vraiment... on a commencé parce que moi, j'ai toujours adoré la fripe. J'ai été sourcé pour la première fois dans le sud de la France, dans l'entrepôt d'un pote à moi.
Sourcé, ça veut dire aller chercher des vêtements.
Aller chercher. Et je me suis rappelé qu'au Togo, il y a un gros marché de seconde main vintage. Et je suis parti faire un test. Je suis parti un mois et demi, faire un test, voir ce que je pouvais trouver là-bas. Et à ma grande surprise, bon, je savais déjà un peu, mais j'ai trouvé beaucoup de bleu de travail, des robes vintage, des jupes, des foulards, des choses comme ça. J'ai pris pour 500 kilos dans un premier temps. Et on a commencé comme ça. Et c'est vraiment en allant tester le marché là-bas que je me suis vraiment rendu compte du potentiel. Et ensuite, le nom Marché Noir, même, c'est un jeu de mots. Parce que voilà, je paye tout là-bas quasiment en cash. Donc ça avait un côté un peu de sous de table.
C'est une économie informelle en fait.
Oui, c'est informel. Maintenant, c'est en train de changer parce que les États, en tout cas dans les pays où il y a beaucoup de vintage en Afrique, commencent à essayer de contrôler. Ça génère beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, le marché non, marché noir vient un peu de ça. Et aussi parce que je serais sur un marché africain, je suis noir, donc il y a toute cette connotation-là. Donc, c'est de là d'où vient le nom, en fait.
Et quelle est la particularité justement de ce sourcing, de ces vêtements que vous allez chercher en Afrique, au Togo en particulier ?
Bah, en fait, ces vêtements, à la base, viennent d'Europe ou des États-Unis. Beaucoup sont issus de dons. En fait, il faut savoir ce qu'on donne à la Croix-Rouge ou à Emmaüs ou autre. Ces organismes donnent une partie à des personnes démunies, mais étant donné qu'ils ont besoin d'argent, revendent une grosse partie à des grossistes qui les revendent après en Afrique ou en Asie. Mais ce n'est pas du tout donné en Afrique, comme beaucoup de gens le pensaient, vendu à des grossistes là-bas, qui revendent à des semi-grossistes, qui revendent sur le marché. Et voilà, il y a toute une cascade, il y a une grosse économie autour de ça. Beaucoup de gens en vivent, donc on trouve de tout, hein. Des manteaux de fourrure, en passant par des vestes en laine, des t-shirts, des bleus de travail, beaucoup. C'est une de mes spécialités. Donc il y a vraiment de tout, des draps de lit, des choses comme ça.
Et on imagine que le manteau en fourrure, par exemple, n'a pas une utilité certaine au Togo.
Non, voilà, c'est ça le problème, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Et donc la plupart de ces vêtements, quand ils ne sont pas vendus, sont brûlés ou bien finissent dans l'océan ou pourrissent les rivières. Donc c'est le pendant un peu dommageable de ce business. C'est qu'on ne prend pas soin de réfléchir à ce qu'on envoie. Et même si c'est le cas, tout ce qui reste là-bas n'est pas traité d'une manière un peu intelligente. Donc pour l'environnement, c'est vrai, c'est un souci.
Et vous vendez combien ces pièces que vous allez chercher sur les marchés au Togo ?
5 euros, 3 euros pour les foulards, en passant par 20, 30 euros des jupes, des robes, jusqu'à 200 euros pour une veste bleue moleskine. Parce que les pièces, j'achète pas cher. Mais quand je calcule tous les coûts intermédiaires, comme payer mes gens là-bas, je les paye 2 à 3 fois le SMIC local. J'ai un bras droit là-bas, plus 2-3 autres personnes qui travaillent avec moi quand je vais là-bas pour chercher les pièces. Donc, c'est des gens avec qui je travaille toute l'année. Il y a la douane là-bas, il y a le transport par bateau, il y a la douane en France et la TVA. Donc, tout ça, ça fait que ça me revient entre 5 et 6 euros le kilo, le pare-vêtement.
Pour vous, en quoi ça a du sens? Est-ce que vous diriez que c'est une façon de vous engager, de militer pour une mode peut-être qui produit moins?
Aujourd'hui, c'est devenu une mode depuis quelques années. Pour moi, c'est pas nouveau en fait. Ce sont les mots qui sont nouveaux, mais moi, c'est en moi depuis tout petit, donc ça n'a rien d'exceptionnel pour moi. C'est devenu un basique. Avant, ça ne l'était pas. Avant, on allait chez le tailleur en fait, tout le temps. Avant, les familles, 3-4 fois dans l'année, allaient chez le tailleur se faire leurs vêtements. En Afrique, ça commence à arriver petit à petit. Les gens mettent de la seconde main, mais avant, c'était quelque chose de juste d'utile. Aujourd'hui, ça devient un effet de style, en fait, de style et de mode. Quand j'ai commencé à faire ça en Afrique, les gens disaient, mais si vous mettez ça, pourquoi là-bas? Ils me prenaient pour des fous, mais je dis, mais pour aller au travail ou pour sortir, mais... Et je disais, mais même tu me payes pour mettre ça, je ne mets pas, tu vois. Mais c'est en train de changer. J'ai vu, tu vois, en retournant ces dernières années, qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à travailler le vintage. Donc ici, on est vraiment dans la surconsommation. Là-bas, on recycle, on garde les vêtements beaucoup plus longtemps. Aussi par manque de moyens, et on rapièce beaucoup plus. Donc je milite à travers le style. Sans dire aux gens, oui, vous devez acheter moins, vous devez recycler, vous devez acheter des vêtements déjà usés. Donc, j'ai pas ce discours. J'ai ce discours à travers le style. Si je leur montre qu'à travers le style, on peut porter un bleu de travail pour aller au boulot, pour aller en soirée, une salopette ou une combinaison de bleu, ou bien une jupe, une robe vintage pour aller au boulot, restylisée de telle ou telle manière, ça passe tout seul. Alors que parfois, je pense que quand on martèle un discours, ça passe pas forcément parce que les gens en ont marre. Mais si on trouve un angle plus fun, plus sympa, ça passe mieux. Et c'est mon cas. C'est vraiment via le style que j'emmène les gens vers le recyclage.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
C'est via le style que j'amène les gens vers le recyclage. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du magazine Brune qui offre une large vitrine justement à ses créateurs africains. Est-ce que vous voulez réagir à cette philosophie que vient de nous expliquer ce créateur Ama Ivy?
Alors j'étais en train de bondir sur ma chaise, enfin bondir mentalement, parce que je ne sais pas si vous voyez le trajet que font
ces vêtements. Le circuit, oui,
que font
complètement.
C'est complètement anti-écologique. Je ne vois pas comment un vêtement qu'il propose à Paris. Le vêtement part de la France, il va au Togo.
Ou des États-Unis.
Parfois des États-Unis, en Afrique.
Il revient.
Mais c'est une aberration économique et puis énergétique. C'est une aberration même stylistique parce que finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez satisfaire peut-être l'ego de jeunes Français ici en disant oui, ça vient d'Afrique, c'est un peu cheap. Donc voilà, mais ce n'est pas cette image d'abord qu'on veut de l'Afrique. Et deuxièmement, au niveau écologique, c'est une catastrophe. Ama Ivy, je ne le connais pas. Je connais sa marque, mais... Il faut aussi qu'on éduque les créateurs à ne pas faire n'importe quoi parce que c'est pas comme ça qu'on va faire avancer la mode. Qu'on parle de mode éclairée, ça veut vraiment dire qu'il faut avoir une réflexion. Il faut parler de locavorisme. Le locavorisme, c'est-à-dire consommer sur place.
Hein.
Et je ne pense pas. Et ce système va en fait permettre aussi à tous les réseaux mafieux qui font de la fripe, parce qu'il y a des réseaux mafieux derrière, hein, qui font de la fripe, qui gagnent énormément d'argent, bah, de prospérer. Parce que ça ne va jamais s'arrêter.
Mais ne peut-on pas se dire qu'à l'heure d'un marché qui finalement émerge, ben on peut commettre des erreurs aussi et
mais
pas toujours
y a
tout bien faire.
Mais il n'y a aucun marché qui émerge. Les créateurs africains sont en train de crever de faim.
On parle de recyclage, de cette manière dont le vêtement est consommé différemment.
Mais il n'est pas consommé différemment, puisqu'il est encore beaucoup plus polluant. Déjà, l'industrie textile est la plus polluante au monde. Et là, vous polluez encore plus. Elle est polluante. polluante parce que techniquement, les matières premières qu'on utilise, tous les investissements que ça demande, tout l'eau et tout ça,
coton,
les
etc.
plantations, ça demande énormément d'argent. Donc déjà, vous prenez quelque chose qui est hyper polluant et vous le rendez encore plus polluant par le système économique que vous avez mis en place. Je dis non. Quand on parle de mode éclairé, il faut que... C'est, si vous voulez, qu'on ait l'intelligence aussi de voir. C'est pas parce qu'on va vendre cher ou pas cher un style que c'est éclairé, que c'est écologique et que ça va faire du bien à la planète. Il faut aussi avoir cette réflexion de dire qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas la prétention de faire du journalisme éclairé ou d'avoir un produit éclairé, mais les actes que je pose au quotidien, quand je recycle mes bouteilles ou quand je fais ou tel machin, je le fais en toute conscience. Mais je ne vais pas m'attribuer une philosophie ou un engagement alors qu'en 30 secondes, on peut me détruire en disant « voilà, vous avez fait ça, et votre empreinte carbone est de tant, donc là, je fais quoi ?» Donc, il faut aussi être sérieux. On ne peut pas prendre les mots comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des marques de fast fashion qui font de la location. Mais en fait, c'est pour faire d'autres profits, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « on va louer », mais ils vont toujours gagner autant d'argent, c'est-à-dire qu'ils vont gagner de l'argent partout. Ils vont gagner de l'argent en faisant la fast fashion à des prix très concurrentiels, avec des mauvais produits, mais des produits facilement consommables. Ils vont gagner de l'argent en mettant...
Trouver une clientèle.
Ils vont, bien sûr, la communication, c'est ça aussi. C'est ça le gros problème aussi. Hein. C'est les moyens qu'on va mettre derrière cette communication pour dire aux gens, si vous n'avez pas ça, ben vous n'êtes pas à la mode, vous n'êtes pas tendance, vous n'aurez pas 10 000 visiteurs sur Instagram. C'est ça aussi, c'est cette conscience qu'on doit avoir.
Avant de poursuivre sur cette discussion, on va accueillir une autre auditrice avec nous. Elle est à Dakar, Ndoya. Bonjour, bienvenue parmi nous.
Bonjour,
Ndoya, c'est animé. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire autour du vêtement qu'on transforme, qu'on recycle.
Exactement. Bon, je disais tout à l'heure à Cyril que bon, la friperie, vraiment, c'est la mode au Sénégal. Je dirais même partout, dans tous les recoins, on voit bon, une table de frip. Mais bon, de mon côté, ce que je voulais dire, c'est juste que moi, je ne sais pas trop pour l'achat de vêtements seconde main, mais ce que je peux dire que moi, il m'arrive d'acheter des chaussures de seconde main et j'avoue que vraiment c'est de la très bonne qualité, du bon cuir et bon, vraiment tu vois des designs exceptionnels que même parfois tu ne peux pas trouver dans les magasins.
Pourquoi les vêtements ne vous tentent pas, les vêtements de seconde main ne vous tentent pas?
Ils ne me tentent pas trop. Bon, ça, quand je me dis. Je me pose des questions au préalable, je me dis qui l'avait porté. Bon, je me pose des questions, je me dis, bon, je me dis à la fin que ce n'est pas trop pratique. Mais parfois, bon, les gens ne me comprennent pas du tout. Ils me disent que, bon, on trouve des vêtements de marque, de classe. Bon, je dis que ça, c'est un peu personnel. Mais bon, de mon côté, moi, je ne suis pas trop.
L'idée de porter un vêtement qui a déjà été porté par quelqu'un même, en fait, c'est ce qui vous bloque. Le blocage est là.
C'est ce qui me bloque un peu. Je me pose la question, je me dis, la personne qui l'avait porté auparavant, c'était une genre de personne. Bon, peut-être que c'est un criminel, quelqu'un qui a déjà commis un homicide. Je me pose plein de questions, je me bloque carrément.
La personnalité de la personne n'est pas vendue avec le vêtement. On vous rassure là-dessus.
Bon, mais ça reste quand même, ça reste.
Ah, les énergies.
Marcia de Carvalho,
Je crois à ça quand même.
J'aimerais vous poser une question par rapport donc à vos habitudes des vestimentaires. Voilà, c'est de savoir si vous, dans votre famille, vous avez été chez des tailleurs africains.
Oui, de temps en temps, j'y passe, oui.
Voilà, parce qu'il y a d'excellents tailleurs, il y a une vraie culture. Dans votre pays, qui d'ailleurs on retrouve aussi à Paris, hein, dans les quartiers de la Goutte d'Or, et d'excellents professionnels. Donc c'est vrai que moi je travaille avec
toutes
eux, je suis super fan. Quoi.
Oui, toutes les tenues que vous trouvez là, eux, ils peuvent coudre ça pour vous. Mais quand même, je voulais souligner qu'ici au Sénégal, la frappe, elle est accessible. Parce qu'il y a plein de marchés hebdomadaires, le marché du jeudi, celui du mercredi et aussi le grand du samedi. Mais quand même, parfois, je me dis que ceux qui vendent la friperie, je me dis, ah, moment, ce que je pourrais même leur conseiller, c'est un peu de moderniser quand même le look. En fait, par exemple, la friperie, parfois, il y a une odeur excessive. Du coup, pourquoi ne pas laver les vêtements ou bien faire des tris? Parce que parfois, comme disent les gens, on y trouve des vêtements de premier qui n'ont même pas été portés. Du coup, si le vendeur fait le tri de la friperie, tu trouves des vêtements vraiment de classe qui n'ont jamais été portés, ils peuvent laver ça, faire de l'emballage avec un bon parfum. Comme ça, ça pourra être plus vendu pour des gens qui sont dans le cas.
Merci Ndoya, merci de participer à cette discussion. Ndoya. Nous accueillons Rémi à Lomé. Rémi, vous allez ravir à nos invités. Vous avez une manufacture de vêtements et vous essayez de développer des teintures naturelles pour réduire cet impact écologique. J'entends des bravos autour de moi. Vous êtes accueillis par un bravo, par des bravos Rémi.
Merci déjà. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Rémi. Oui, en fait, nous on est à Lomé. Une auditrice a dit bientôt que au Togo, il y a un très important marché de la friperie. Mm-hmm. Oui, mais on a expérimenté sur le terrain aussi une petite entreprise. On a une vingtaine d'employés qui est dans la production d'articles vestimentaires. Donc, très tôt, nous-mêmes, nous avons commencé à produire notre tissu, à faire de la teinte. Mais on a rapidement remarqué que la teinturerie est un véritable désastre. Mm-hmm. Oui. Un désastre écologique sans précédent, parce qu'on utilise tellement de produits chimiques, la soude, les teintes. Même quand vous finissez, vous versez les excédents d'eau, ça détruit complètement la beauté du quartier ou des environnements pour un bon moment.
Donc vous vous êtes tourné vers une teinture naturelle.
Parce qu'il faut savoir que depuis toujours en Afrique, le textile est teint traditionnellement. Il y a quand même des teintes traditionnelles qui ne sont pas facilement accessibles, mais qui existent quand même. Donc, depuis quelque temps, on travaille avec quelques teinturiers traditionnels. Et là, avec les teintes traditionnelles, on remarque en même temps qu'il y a d'abord le tissu a un aspect un peu plus différent. C'est vrai que les teintes ne sont pas aussi abouties qu'avec les teintes chimiques, mais il y a quand même une bonne matière, une bonne expérience qu'on a là-bas. Et nous pensons que c'est quelque chose qui, à la longue, peut être développé. Que cette teinture traditionnelle et naturelle peuvent facilement réduire l'utilisation d'eau. Et puis, quand le tissu, à la fin d'utilisation, est jeté, rapidement, elle se dégrade sans avoir un impact négatif sur l'environnement.
Et est-ce que cette teinture naturelle a des répercussions sur le prix du produit?
Tout à fait, ça a des répercussions sur le prix, mais on va dire qu'au Togo, nous avons quand même les produits vestimentaires les moins chers de la sous-région. Et malgré que cette teinture a des répercussions sur le prix, nous produisons quand même moins cher que les Chinois. Donc vous savez qu'avec ça, malgré le coût, on s'en sort.
Rémi, vous êtes la star vous êtes la star du jour.
C'est super, très bien. Je prendrais bien vos coordonnées. Rémi, bonjour, c'est Sakina. Sakina Moussa. Rémi, je serais ravie de rester en contact avec vous.
Merci d'avoir.
Eh bien, on vous mettra en contact. C'est aussi l'objet de ces émissions, de ces rendez-vous, c'est de pouvoir échanger les uns et les autres et continuer à construire Sakina Moussa. Salut Rémi.
Okay, merci
beaucoup. Vous êtes très attaché à ce terme de mode éclairée. On ne l'a pas développé, je voudrais qu'on prenne le temps de le faire. La mode éclairée, selon Sakina Moussa.
Je suis d'origine africaine et quand j'entendais parler de l'Occident et de la France, comme beaucoup de personnes aujourd'hui encore, c'est la France, le pays du siècle des Lumières, où on est sorti d'un certain obscurantisme par la culture, par les inventions, par tellement de choses. Et moi, ça me faisait rêver, ce pays des Lumières. Et je me suis dit, mais comment moi, créatrice franco-comorienne, vivant dans ce pays du siècle des Lumières, je peux fabriquer d'une manière que moi j'appelle l'obscurantisme, c'est-à-dire la fast fashion pour moi, c'est l'obscurantisme. Et du coup, il faut qu'on passe à un changement de paradigme, et bien du coup, à une mode éclairée. C'est-à-dire cette mode, là, moi je décrète, j'ai envie de dire, nous allons passer à un moment qui va être le moment des Lumières, où la mode va être une mode éclairée, qui va éclairer tout le monde sur la chaîne de valeur. Tout le monde, c'est-à-dire du mec qui plante, au mec qui teint, à celui, et à celui qui va consommer aussi, parce que c'est une forme d'éclairage. Moi je dis aujourd'hui, tu achètes un vêtement Sakina Moussa, tu vas acheter
mon pull, eh ben, c'est tu pratiques de la mode éclairée et tu votes pour un changement de paradigme.
Vous dites ne pas vouloir culpabiliser les usagers, les utilisateurs, les acheteurs, mais avec ce mot d'obscurantisme, quelque part, ce mot est lourd. Il faut impressionner.
Ben oui, mais je pense qu'il faut... Moi, je trouve que ça a... Alors, je suis vraiment dans le... Moi, j'en connais des gens qui culpabilisent réellement. Mais moi, je pars du principe qu'il faut travailler d'une manière modérée. Mais en revanche, il faut dire les mots face à ce qui nous attend, quoi. Moi, j'étais portée par Camus. Vous savez, quand il a eu son discours, chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le fera pas. Mais sa tâche est encore plus grande. Elle fera en sorte que c'est de faire en sorte que le monde ne se défasse. C'est quelqu'un qui dit, on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux.
On ne fait pas forcément bien tout de suite, on va essayer.
Less is more. Et moi, je crois aujourd'hui que tout ce que nous réserve cette mode et cette manière de faire, c'est pour ça que tout le monde est en train de réfléchir à ça. Et tant mieux, c'est l'obscurantisme. C'est
pas possible. Pensez-vous que, je m'adresse à vous trois, que cette loi anti-gaspillage adoptée là tout récemment en France pour une économie circulaire va dans le sens de vos combats, puisqu'on en est là?
Oui, bien sûr, elle va dans le sens des combats.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Elle va dans le sens de ce combat pour une mode éclairée. Mais il faut voir que aujourd'hui, il y a très peu de sociétés, de mode, qui sont véritablement françaises, franco-françaises. Dans le sens où elles sont toutes des filiales, ou alors elles sont des sociétés internationales. Et ce qui se passe en France, si c'est interdit, ça peut se passer en Italie, ça peut se passer en Espagne. Donc, toutes les grandes marques, il faut savoir que c'est du profit. Hein, que on ne va pas, c'est les grandes marques qui gagnent de l'argent, ne vont pas cracher sur ce profit. Et ce qui se passe en Chine avec le coronavirus, est en train d'embêter les marques de luxe, non pas parce qu'il y a des morts, mais parce qu'en fait, ils se disent comment on va faire, on aura des marges moins importantes. Donc tout ça, ça a un impact. Donc quand le gouvernement prend ses décisions pour rendre les marques plus vertueuses, mais ils savent très bien que, de toute façon, entre le moment où la décision sera prise et le moment où ce sera véritablement appliqué, ben, il va se passer peut-être une génération. Parce que il y a des lobbies, parce que il y a aussi les habitudes de consommation. Si vous consommez moins, c'est moins d'emplois et tout ça. Donc on peut consommer différemment. Donc ça, c'est aussi, ce sont des problèmes. Mais je crois qu'il est important d'avoir des symboles. Il est important de marquer le pas. Il est important de dire ça, ce n'est pas bien. Il est important de dire que le plastique pose problème, même si on sait que l'industrie pétrochimique va râler. Il est important de dire tout ça parce que la planète va mal.
Et que ça va mettre du temps à changer.
Et que ça va mettre du temps à changer et que les données sont assez catastrophiques. Donc, on peut très bien finalement dire oh non, ça va passer, tout ça, fermer les yeux, un peu à la Trump, et puis voir la réalité, puis se dire on prend des décisions, même si elles font mal, même si on va porter nos jeans un peu plus longtemps, ben, ça ne va pas nous tuer.
Mais nous, usagers, sans même le savoir au quotidien, à travers des gestes anodins, comme laver nos vêtements, par Bien exemple, dans la machine à laver, là aussi, finalement, on cause des dégâts, là aussi, on pollue, on ne le sait pas, il y a ces microfibres qui partent dans les circuits d'évacuation, qui se retrouvent dans la mer, on ne le sait pas forcément.
Oui.
Donc,
une
là
chaîne
aussi,
de valeur. C'est là-dessus où en fait j'aimerais revenir sur Marcia cette histoire d'être vraiment absolument positif, parce que c'est l'énergie positive au quotidien qui va nous aider à trouver des solutions, y compris à se demander si on doit ou pas laver son pantalon aujourd'hui.
Ça, c'est une question que je voulais vous poser.
C'est ça.
Est-ce qu'un pantalon se reporte?
Ce sont des choses qu'on peut se poser. On peut se poser des questions. Il y a pas mal de choses qui se font aujourd'hui, des informations. Nous, on a sorti les digestes au quotidien pour aider la planète. Ce sont des petits gestes que tout le monde, qui sont apportés, pas des énormes efforts, mais qui, à force d'être des milliards de personnes à les pratiquer, vont faire. Et en plus, avec le sourire, avec la joie, parce qu'évidemment qu'il y a, Sakina disait, pour moi aussi, la France, les siècles des Lumières, c'est quelque chose qui m'a tellement inspirée quand j'étais enfant.
Qui est optimiste.
Mais voilà, et c'est à ça que je crois. Cette lumière qui existe, c'est un peu comme les Jedi. J'adore l'idée. On est Et on peut être, et on doit être les personnes, nous tous, habitants de cette planète, qui, avec notre optimisme, notre lumière, allons trouver des solutions au quotidien, juste en réfléchissant ce que nous pouvons faire pratique, simple et efficace.
Eh bien là, on a une auditrice optimiste, a priori, Rokia. Bonjour, bienvenue parmi nous. Vous avez 43 ans, vous êtes à Bamako et vous achetez des vêtements dans les friperies.
Bonjour, cette milliard de voisins, effectivement. Moi, j'achète mes vêtements.
Expliquez-nous les raisons de cette démarche. Pourquoi ?
Pardon ?
Expliquez-nous les raisons de cette démarche. Pourquoi ?
Comme vient de le dire un de vos auditeurs, il y a, en termes de qualité, réellement, on y trouve du bon. Et des vêtements aussi de marque. Et il faut savoir qu'on allait très souvent, les vendeurs de friperies fonctionnent beaucoup avec les grandes boutiques. C'est-à-dire, ils font quand ils cassent les balles, ils font les premiers choix. Ils vont laver, blanchir au niveau du pressing. Et les magasins accrochent. Et là, c'est souvent le double, le quadruple du prix.
Donc, vous vous y retrouvez.
Pardon ?
Vous vous y retrouvez, vous, dans les friperies.
Beaucoup, 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 beaucoup.
Et est-ce que
ce soit les vêtements, les sacs, les chaussures.
Mm-hmm.
Les sacs, encore, tu peux faire plus de 2-3 ans. Avec un sac.
Mais même plus encore.
Le sac à chuter, même plus souvent.
Mais
le sac à chuter.
Heureusement, ça se transmet un sac.
Oh oui, un sac de 15 ou 10 000 en cuir en plus.
Mm-hmm.
Tandis qu'un sac ordinaire à chuter, souvent à 20, 25 000, tu ne sais même pas l'année que la peau commence à quitter.
Après, le cuir soulève aussi d'autres interrogations, d'autres questions. Là, je vois Marie-Jeanne Servin-Thomas prêt à bondir. Je vais lire ce message. Restez avec nous, Rokia, pour ce message de Percy Tonga, qui nous dit « Quand on réfléchit bien, on peut toujours donner une seconde vie à nos vêtements qu'on ne porte plus pour éviter qu'ils traînent dans les rues, les poubelles, bouchent les caniveaux, etc. Un bonnet peut servir à retirer les marmites chaudes du feu. Une écharpe peut jouer le rôle d'un essuie-poussière. C'est horrible de voir des habits qui ne servent plus traîner ça et là. » Il y a de la créativité, là. Il y a de l'imagination, oui, il y a une envie de faire vivre le tissu.
Alors, les rares fois où je fais ma poussière chez moi, je suis avec une chaussette.
Oui,
je mets une chaussette, je l'enduis avec un petit peu de miel et puis je passe sur les vêtements.
Non,
oui,
effectivement, ce sont des...
Oui, oui, tout à fait.
Nos auditeurs... ont vraiment des idées. Je voudrais juste dire un mot à propos de votre association, les chaussettes orphelines Marcia de Carvalho.
Oui.
Avec des chaussettes, on peut sauver la planète. Ça, c'est le message que vous envoyez.
Tout à fait, parce que c'est les petits objets qui parlent à tout le monde connaît, ça fait partie du quotidien. J'ai commencé avec les tiroirs de mes enfants, donc c'est très commun, très ordinaire. Et effectivement, ça sert à inspirer pour trouver des idées dans n'importe quel secteur. L'idée de collecter des chaussettes, c'est que justement, quand on se mobilise pour une chose, on se mobilise pour toute
pour
la chaîne.
Choses.
Et on a besoin de se mobiliser au quotidien parce que la vie, tout le monde peut baisser vite les bras. Donc, l'idée, c'est de se mobiliser au quotidien pour avancer.
Alors, je n'ai pas dit au revoir à Rokia. Juste Rokia,
oui,
excusez-nous, on vous salue et puis j'espère que vous aussi, vous verrez vos chaussettes différemment maintenant.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Allez,
à très bientôt. À très bientôt, Rokia.
Bien, Inch'Allah, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Donc, un petit objet, un petit geste pour finalement de grandes ambitions.
Exactement, c'est ça
l'idée. C'est
le grain de riz.
C'est le grain de riz qui fait le sac, Sakinamsa. Vous voulez réagir à ce qui s'est dit?
Ah ben moi je suis d'abord je voulais vraiment remercier vos auditeurs parce que c'est formidable. Je trouve qu'on
en
a
10 secondes si on peut.
Voilà. Merci beaucoup aux auditeurs. Voilà, c'est tout.
Merci à toutes les trois, merci pour cet engagement. Sakinamsa, Marcia de Carvalho et notre partenaire Mode, Marie-Jeanne Servin-Thomas. Merci.
Bravo.
Pour la force des mots et la passion qu'on a entendu vivement sur cette antenne. Merci à l'équipe, Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Alix L'Hospital et Romain Dubrac. Demain, nous parlons emploi et jeunes avec le coaching et les précieux conseils de Farida Akadiri. Soyez là au rendez-vous, nous on sera là. C'était Céline Guillaume, je vous dis au revoir. Merci à toutes les trois.
Merci.
Et le mot de la fin, c'est pensons durable, soyons éco-responsables.
Faisons de la mode éclairée.
Hein, faisons
Allez.
De la mode éclairée. Au revoir.
Au revoir. RFI.fr